Voilà, je regarde bien pour voir qui est là. Hein. C'est toujours un plaisir pour nous et je vous amène les salutations de Fréjus. Je sais que l'église de Fréjus, maintenant, ils commencent à sentir qu'ils appartiennent à vous et ils se rattachent un petit peu parce qu'ils commencent à vous connaître. Il y a des gens d'ici qui descendent m'inspecter et après qu'ils leur donnent des rapports. Et puis, il y a 15 jours, je crois qu'il y avait quelqu'un de chez nous qui était monté ici, le frère français. Donc, voilà, c'est un plaisir d'avoir des liens et vraiment, nous vous remercions en tant qu'église pour votre soutien et aide financier pour l'œuvre à Fréjus. C'est une œuvre que le Seigneur est en train de faire, mais je vois aussi que le Seigneur n'a pas cessé d'œuvrer ici. Et j'aurais pu rester là et juste baigner. Lorsque je vous vois grandir, je vois mûrir, je vois ce que le Seigneur est en train de faire. Puis j'ai vu le frère Marcel là, moi j'avais entendu qu'il était presque évanoui, qu'il était tellement faible, et là je le vois en train de sauter dans la joie. C'est un plaisir, le Seigneur l'a relevé, et qu'il nous relève tous, que l'œuvre continue. On a du travail à faire, et je remercie le Seigneur pour ce qu'il fait parmi vous. Et le Seigneur, il est bon. Et finalement, je ne savais pas quel était le thème de ce matin, et j'ai préparé seulement ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, parce que dans mon culte personnel, je suis en train de lire, j'ai lu Deutéronome, là maintenant je suis déjà dans Josué, mais juge même, mais je lisais Deutéronome quand j'ai pensé à vous, et donc, vous pouvez commencer à trouver Deutéronome chapitre 8, Deutéronome chapitre 8, mais vous savez, et nous sommes tous des étrangers ici, hein, nous sommes, vous savez, l'un des soucis de nos pays d'origine, un des soucis quand ils voient partir l'un de leurs jeunes vers l'Europe, un jeune qui peut-être marche avec le Seigneur, qui est heureux avec le Seigneur, et puis le voit partir vers l'Europe, ils sont contents qu'il ait cette opportunité de partir et de se faire une vie. Mais en même temps, il y a un souci. Il se dit, bah, j'espère qu'il reste attaché au Seigneur. Et je vois dans l'église de Saint-Denis, il y a bien sûr une génération qui est là et qui est en train de mûrir, et ça me réjouit. Mais nous avons une nouvelle génération d'adultes qui arrive. C'est des gens que j'ai connus dans la crèche, mais maintenant que c'est des jeunes adultes. Et il y a un flambeau à transmettre. Deutéronome chapitre 8, c'est Moïse qui parle au peuple d'Israël. Il dit, je vais vous rappeler ce que le Seigneur, les bontés de l'Éternel. Et vous allez voir dans la lecture le mot « souvenir » et oublié. Et on a été rappelé tout à l'heure de nous souvenir des bontés de l'Éternel. Je vais lire le chapitre 8. Il dit, « Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. » Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Et ça, c'est la bonté de l'Éternel, n'est-ce pas? Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant, c'est-à-dire pour son bien. Tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs, qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froments, d'orge, de vignes, de figuiers, de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer et les montagnes duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras et te rassasiras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasiras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans un grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions dans les lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue de tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, « Ma force, ma puissance, la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. » Souviens-toi que l'Éternel, ton Dieu, est celui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Si tu oublies l'Éternel, ton Dieu, et que tu ailles auprès d'autres dieux, si tu les sers et tu te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez comme les nations que l'Éternel a fait périr devant vous, parce que vous n'aurez point écouté la voix de l'Éternel, votre Dieu. En fait, c'est tellement clair qu'on aurait pu s'arrêter là. Mais Dieu est en train de s'exprimer par la bouche de son serviteur Moïse. Il dit, j'ai quelques soucis. Même Dieu, parfois, a des soucis. Des soucis d'un père qui veut le bien de ses enfants. Il décrit cette belle terre qu'il réserve pour eux, le pays de Canaan, un pays d'abondance, de tout ce qu'on pourrait désirer. Et comprenez que quand on vient d'un désert, eh bien d'avoir de l'eau, de la végétation, une topographie très variée, des collines, des montagnes, un riche sous-sol aussi, il leur dit. Tout ça, je vous l'ai préparé. Et je l'ai préparé avec amour. Je veux le faire. Je l'ai promis à votre père Abraham. Mais en même temps, je prends un risque. Parce que vous risquez de m'oublier. Il sait que lorsque ce peuple découvrira le pays, il bénira l'Éternel, son Dieu. Ah, il dit, je sais, à votre arrivée, vous direz, béni soit l'Éternel. Mais Dieu sait qu'en offrant un tel pays, son omniscience lui dit, mais un jour, ils t'abandonneront. Oui, ce peuple est bien disposé ce jour-là. Le jour où Moïse parle, il dit, vous êtes bien disposés, vous êtes reconnaissants, et comme tout à l'heure, nous avons chanté la bonté de l'Éternel, nous avons prié la bonté de l'Éternel, nous avons loué la bonté de l'Éternel, nous nous sommes promis même de se souvenir de sa bonté jusqu'à la fin. Et Moïse est en train de ce peuple dire la même chose. Oui, le peuple est bien disposé pour prendre possession du pays. Et même en mesure de promettre de rester fidèle au Dieu qui les a fait sortir de l'Égypte. Et faites dans votre esprit, pensez à l'endroit d'où le Seigneur vous a tiré. Et on est presque, ils ont envie de dire à Moïse, il dit, mais ce que tu dis là, c'est pas nécessaire, tu sais, nous on va jamais oublier, tu sais. Non, on pourra jamais oublier. Mais vous savez, c'était un peu l'assurance qu'avait Pierre aussi, qui a dit à Jésus, il a dit, Jésus, je ne te trahirai jamais. Même si tous les autres, moi, jamais. Et Jésus a dit, Pierre, je t'aime bien, mais je sais que ce soir, tu vas me renier. Le Seigneur nous parle parce qu'il connaît notre faiblesse. Et que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Reconnaissant, puisque Dieu sait que c'est notre faiblesse, et oublier, l'être humain oublie constamment. Souvenons-nous. Et tant que nous nous souvenons que nous sommes en mesure et capables d'oublier, de nous détourner de Dieu, eh bien nous resterons attachés. Mais le jour où nous croirons que ce ne sera pas possible, eh bien nous serons les premiers. Pierre a cru que tous les autres abandonneraient avant lui. Et finalement, c'était lui le premier. Quels sont ces soucis de l'Éternel? Eh bien, au verset 11, il nous dit, son premier souci, c'est que le peuple l'oublie au point de ne pas observer ses commandements. Au verset 14, il nous dit, son souci, c'est que le cœur du peuple s'enfle et qu'il oublie l'Éternel. Et au verset 19, il nous dit que son troisième souci, c'est que le peuple l'oublie et aille après d'autres dieux. Dieu, bien sûr, pense, il les avertit, il dit, je sais que maintenant vous n'avez pas l'intention d'oublier, mais je sais que vous êtes capable, et même je sais que vous le ferez un jour. Et la même préoccupation est avec Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Ne disons pas, oh, ça c'était les enfants d'Israël, mais nous on est chrétiens, on est en Jésus-Christ, et alléluia. Mais oh, vous savez, Jésus, la veille de sa crucifixion, vous savez ce qu'il a pris? Il a pris une coupe, et il a pris un pain. Et il a pris le pain, il a rompu le pain, il a dit, ceci est mon corps qui est brisé pour vous. Et puis ensuite, il a pris la coupe, il a dit, cette coupe, c'est mon sang qui est là pour la rémission des péchés, et c'est le sang d'une nouvelle alliance. Et c'est ce qu'il a dit aux disciples. Mais quand il a parlé à Paul, et Paul nous parle de cette révélation qu'il a reçue directement du Seigneur dans 1 Corinthiens 11, il y a une parole supplémentaire. Jésus ajoute, il dit, Paul, dis-leur, faites ceci en mémoire de moi. Je veux qu'ils se souviennent que je suis mort sur la croix pour eux. Il dit, comment est-ce que je pourrais oublier? On a des croix de partout. Oh, il y a plein de monde qui ont des croix de partout, qui ne pensent jamais au Seigneur. Vous savez, le Seigneur aussi en partant, en quittant cette terre, je suis sûr qu'il est parti avec le même fardeau qu'il exprimait ici. Il dit, oui, vous aurez de beaux jours. Et je vous ai délivré. Vous pensez à quel état, dans quel état vous étiez quand vous êtes venu auprès du Seigneur et maintenant ce que vous avez. Et pour beaucoup, c'est de l'abondance par rapport à cela. Il dit, mais il y en a qui vont m'oublier. Une fois qu'ils ont... On a déjà vu ça. Il y en a qui sont venus, ils n'avaient pas de papier, rien du tout, ils priaient. Une fois qu'ils ont eu la carte séjour, on ne les voyait plus à l'église. Ça arrive, c'est encore là aujourd'hui, c'est une réalité. Et c'est à nous de le reconnaître. Remarquons que ces trois catégories d'oubli que le Seigneur suggère ici et reconnaît, elles touchent l'homme tout entier. D'abord, il dit, c'est l'abondance matérielle, c'est le physique, qui risque de vous emmener à ce point-là. Il parle du cœur qui s'enfle. C'est au niveau de l'âme, les pensées. Il dit là aussi, vous risquez d'oublier. Et puis il a dit aussi, ça peut arriver au point où ça touche même l'esprit de l'homme. L'esprit qui est cette fenêtre dans l'âme qui est tournée vers Dieu, qui est fermée jusqu'au jour où je reçois Jésus-Christ comme mon sauveur et l'Esprit de Dieu vient en moi. Il ouvre cette fenêtre et à partir de ce jour-là, je peux être en communion avec le Seigneur. Il dit même à ce niveau-là, il se peut qu'on arrive au point où on adore d'autres dieux. Oh, ce n'est pas forcément des statues, hein, c'est un Dieu, c'est tout ce qui vient entre moi et Dieu. Tout ce qui peut me distraire de Dieu. Tout ce qui prend plus d'importance que Dieu dans ma vie. Et vous savez, la tentation, elle est là tout le temps. Oui, il nous parle d'abord de l'abondance matérielle qui peut favoriser l'oubli. Et c'est caractéristique de l'être humain, quand il est dans le besoin, quand il est dans la douleur, quand il est dans la difficulté, eh bien, il prie. Ça, on le fait naturellement. Mais quand on a tout reçu, quand on a ce qu'il nous faut, on a la santé, on a un travail, on a une maison, on a tout, il dit, mais qu'est-ce que je vais lui demander? Pourquoi je vais prier? Qu'est-ce que j'ai à lui dire? J'ai tout. Mais ce n'est pas pour ça, on demande, on n'adore pas Dieu parce qu'on a. Déjà, il faut commencer à le remercier pour ce qu'on a. Et puis Dieu, on prie. C'est pas parce qu'on est dans le besoin. On prie Dieu parce qu'il est Dieu. Il est notre Dieu. Je ne m'adresse pas à ma femme uniquement quand j'ai faim. Bon, je le fais aussi. Mais pas uniquement. Il y a d'autres moments aussi. Je dis, chérie, je t'aime. Elle dit, qu'est-ce que tu veux? Non, je t'aime, c'est tout. Mais Dieu, il aime bien entendre ça aussi, hein. Vous savez, l'homme a été créé à l'image de Dieu. C'est-à-dire ce genre de choses, d'entendre qu'on est aimé, ça nous fait plaisir. Mais Dieu aussi, hein, parce qu'il nous a créé à son image. Il nous a fait avoir des mêmes besoins, les mêmes réactions que lui a. Alors c'est égoïste de ne pas lui parler. Je me rappelle, il y avait une fois, on avait un gendarme qui venait ici pendant un temps, et il m'a dit la pire chose, la chose la plus désagréable. Il n'aimait pas dire aux gens qu'il était gendarme, parce que il y avait des gens qui l'appelaient uniquement quand ils voulaient faire sauter une amende. Il a dit, mais je ne veux pas être connu pour ça. Je veux être connu pour un frère, qu'on prie ensemble. Mais vous savez, pour certains, Dieu, c'est celui qu'on appelle, hein, comme l'assistante sociale ou comme le banquier. L'abondance matérielle. Et si Dieu vous a béni, ben n'oubliez pas de le remercier pour cette bénédiction et lui dire, ce que j'ai, tu me l'as donné et c'est à toi et je veux te servir avec. Rappelez dans Éphésiens, il dit que celui qui vole ne vole plus. Ça, c'est la religion. On n'a pas besoin de Dieu pour savoir ça. Mais il dit, mais au contraire, qu'il travaille afin d'avoir de quoi donner à un autre. Ah, ça, le monde, il ne fait pas ça. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. J'ai une augmentation, alors j'achète une plus grosse voiture pour mon confort. Ah, mais pourquoi est-ce que le Seigneur t'a donné l'augmentation? Tu as dit merci Seigneur, après tu as tout pris pour toi. Peut-être qu'il te donne, les moyens de venir en aide pour acheter une voiture avec une place supplémentaire pour que tu puisses récupérer quelqu'un. Je ne sais pas. Mais vous savez, il y a une autre manière de voir l'abondance afin de rester dans la pensée de Dieu. Je vous ai dit que ça peut toucher le domaine de l'âme. Il dit l'oubli atteint le cœur ou l'âme, l'intelligence, lorsqu'on s'attribue l'œuvre de Dieu. Il dit quand tu arrives là et tu dis ma force, ma puissance, la puissance de mes mains m'ont acquis ces richesses. Quand tu arrives au point, tu dis c'est moi qui ai travaillé. Moi j'ai fait les études, moi j'ai réussi mon diplôme et moi j'ai été chercher du travail et moi je l'ai eu. Il dit, ben, quand tu commences à penser comme ça, bientôt tu vas oublier Dieu. Peu importe ce que tu dis aujourd'hui, mais je garantis, si c'est les pensées-là, tu vas oublier Dieu bientôt. Parce que tu n'as plus besoin de lui, c'est ta force. Après, il ne faut pas s'étonner si jamais Dieu il donne un coup dur, hein, pour tout d'un coup nous réveiller et dire, ah bon, je te croyais si fort. Tu n'avais pas besoin de moi, hein, tu te croyais assez fort pour... La bonté de l'Éternel. Parfois, un bon petit coup de la part de Dieu, c'est un geste d'amour. Parce que ça nous réveille. Vous savez, il n'y a pas besoin, et il y a un truc qui me dérange parfois, il y a des gens qui disent merci Seigneur pour n'importe quoi. Et puis, eux ils savent, et moi je sais, que le gars, il n'a même pas compté sur Dieu, il s'est débrouillé, il a eu des tuyaux, il a fait ceci, cela, il s'est débrouillé, tout ça, et il a eu, après il dit, merci Seigneur. Le Seigneur a dit, ne me remercie pas pour ce que je n'ai pas fait. Vous n'aimez pas que quelqu'un vous remercie pour ce que vous n'avez pas fait pour eux ? Il dit, non, mais je n'ai rien fait. Parfois on dit ça par politesse, mais des fois, c'est vraiment, ce n'est pas nous qui l'avons fait. Il dit, écoute, ce n'est pas moi qu'il faut remercier, il y a quelqu'un d'autre, mais bon, il a fait ça pour le Seigneur. Dieu dit, remercie-moi pour ce que moi j'ai fait. Et peut-être que vous pouvez regarder en arrière et puis vous penser à des choses, dire oui, là, je sais, le Seigneur, vraiment, il est intervenu, c'est lui qui a fait. C'était clair, parce que ce n'était pas possible autrement, c'est Dieu qui m'a donné. Ben, souvenez-vous de ces choses-là. Mais peut-être que vous rappelez au début de votre marche avec le Seigneur, il y avait tous les jours des choses extraordinaires. Mais c'est merveilleux ce que le Seigneur... Moi, j'en ai entendu, je vous ai entendu déjà dire, oui, mais le Seigneur, il a fait ça. Et chaque semaine, il y avait un témoignage ce que le Seigneur a fait. Et maintenant, ça fait combien de temps depuis que le Seigneur a fait quelque chose pour vous ? Qu'il était clair que le Seigneur est intervenu. Est-ce que c'est parce que le Seigneur ne fait plus rien ou est-ce que c'est parce que moi, je ne le remercie plus ? Je ne vois plus sa main. Vous savez, il y a des chrétiens qui se comportent comme des athées. Déjà, j'ai lu dernièrement, vous savez, un athée, je ne sais pas comment ils arrivent à exister. Parce que si Dieu n'existe pas, pourquoi être athée ? Comment dire, je ne crois pas en quelque chose qui n'existe pas ? Déjà, un athée, par le fait de dire « je suis athée », dit « je sais que Dieu existe, mais je ne veux pas de lui ». C'est tout ce qu'il est en train de dire. Il n'y a pas des gens qui sont... Moi, je suis anti-terre plate. Mais la terre, elle n'est pas plate. Alors, pourquoi être anti ? Ça n'existe pas. Mais les gens, ils disent, moi, je suis anti-Dieu. Mais tu dis qu'il n'existe pas. Mais vous savez, en tant que chrétien, est-ce que nous nous comportons devant le monde comme des gens qui croient en Dieu ? Est-ce que le monde voit la différence que ça fait ? Il dit, la seule différence entre moi et eux, c'est que le dimanche matin, moi je reste au lit et eux, ils vont à l'église. S'il n'y a que ça, c'est tout ce qu'ils ont vu, ben ils n'ont pas vu grand-chose. Parce qu'il y a des gens incroyants qui font mieux que ça. Ou est-ce que c'est... Il y a des chrétiens qui n'invoquent Dieu que de manière occasionnelle. C'est-à-dire... Pendant le culte, ça fait bien d'invoquer Dieu et dire merci Seigneur. Ou parfois, c'est une prière occasionnelle, quelqu'un nous demande de prier. Alors là, on dit oui, merci Seigneur, Seigneur, je te remercie pour toutes les choses que tu as fait. Et il te dit quelle chose ? Je ne sais plus. Alors pourquoi tu me remercies ? Est-ce que je vois la main de Dieu dans ma vie ? Parce que si je ne la vois plus, je ne vois plus intervenir dans ma vie, je vais bientôt l'oublier. C'est ou je ne vis pas dans la volonté de Dieu, ou je suis tellement préoccupé avec celui qui est dans le miroir que je ne vois plus Dieu. Il dit, le troisième souci de Dieu, c'était qu'ils l'oublient et qu'ils aillent après d'autres dieux. Comment louer celui dont on ne se souvient plus, celui qu'on a oublié? Si je commence à l'oublier, ben, je ne peux plus adorer Dieu, je ne peux plus le louer, parce que je l'ai oublié. Il n'est plus dans mon esprit. Penser à Dieu, c'est pas comme ouais, quand j'étais à l'école, en sixième, j'avais un professeur que j'aimais vraiment. C'est pas ça, ce souvenir de Dieu. Ce souvenir de Dieu, c'est quelqu'un qui est réel, qui est là, qui intervient dans ma vie, avec qui je marche. Et si ça vous prendrait combien de temps pour que Dieu, de vous rendre compte que Dieu s'est absenté s'il s'absentait de vous? Ça prendrait combien de temps? Des fois, vous avez déjà vu, ça arrive aux hommes, il marche avec sa femme et puis tout d'un coup, il continue à marcher comme ça. Elle s'est arrêtée un stand et lui, il est encore, il fait 50 mètres et tout d'un coup, il dit, il est où? C'est parce qu'il ne pensait pas à elle, il pensait à autre chose. Et si moi, je peux faire de la route, et puis tout d'un coup, je me rends compte, Seigneur, où es-tu? Il dit, où es-tu? C'est toi qui marches avec moi ou c'est moi qui marche avec toi? C'est qui le berger? Et c'est qui le mouton? C'est avoir dans nos pensées et de vivre comme s'il était, puisqu'il est, à nos côtés. En toute chose, quand je regarde mon écran d'ordinateur, je sais qu'il est là, il regarde avec moi. Est-ce que je lui fais voir des choses qu'il ne veut pas voir? Quand je suis à des discussions avec les amis, il est là. Ou est-ce que j'ai oublié qu'il est là? Et donc j'arrive à rire avec les autres. Dieu, il habite pas ici. Hein. Ici, l'Église, elle est ici quand vous êtes là. Mais quand vous n'êtes pas là, le Seigneur, il n'a rien à faire ici. Qu'est-ce qu'il va faire ici? Il est là où vous êtes. Il est là où je suis. C'est nous qui sommes le temple du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Il dit, il est même à côté de ceux qui ne le cherchent pas. Paul, dans sa prédication à Athènes, il dit, il a voulu qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant, bien qu'il soit pas loin de chacun de nous. Il dit, vous ne connaissez pas le Seigneur, mais il est juste là. Vous êtes aveugle, tâtonnez, vous allez le trouver. Ah. Jésus a rendu la vue à des aveugles. Hein. L'aveugle, ils ont dit, Jésus qui passe. Jésus qui passe. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ils ont dit, tu fais du tapage, il y a déjà assez de bruit, calme-toi. Il dit, pas question. Seigneur, il est là, il passe. Et avec tout le bruit qu'il y avait, Jésus l'a entendu. Il dit, faites-le venir. Oui, le Seigneur est là, il est prêt de... Si vous ne connaissez pas le Seigneur aujourd'hui, vous n'êtes pas sûr de le connaître, vous n'êtes pas sûr que c'est votre Dieu, eh bien ne continuez pas à vivre dans le doute. Il est là, parlez-lui. Et il interviendra, il répondra aux besoins. Il l'a fait pour tant d'autres. Et il ne change pas. Il est encore là. Le Jésus qui a marché sur les routes de Galilée, c'est le même Jésus qui est là aujourd'hui. Et il réagit de la même manière. Et il répond de la même manière. Ils ont pensé l'insulter quand ils lui ont dit qu'il était l'ami des gens de mauvaise vie. Pour lui, c'était un compliment. C'est ça le message qu'il a voulu passer. L'ami des pécheurs. On a voulu le salir, mais il a dit, mais non, ça c'est grâce. Je suis l'ami des pécheurs. Je suis plus à l'aise sur les routes avec les pécheurs que dans le temple de Jérusalem. Il a passé très peu de temps là, et quand il a été là-bas, c'était pour faire le ménage. Quand vous dites merci au Seigneur, ne dites pas toujours la même phrase, parce que vous savez, quand on dit la même chose toujours, ça devient automatique. Et alors si vous dites tout le temps merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, il y a un moment où c'est mieux ce qu'on a dit. Hein, c'est un truc pour boucher les trous. Essayez de formuler de manière consciente, chaque fois autrement, votre reconnaissance. Pour que ça soit vraiment conscient. Je ne le dis pas comme la dernière fois, je ne le dis pas comme l'autre fois. Évitons, essayez, même dans nos prières, essayons d'enlever tous les automatismes. Toutes les choses qu'on dit chaque fois qu'on prie. Dites-le autrement. Parce que si je parlais à ma femme comme certains parlent à Dieu, elle me dit, écoute, arrête. Dis-moi une phrase qui vient de ton cœur, sincère, et je sais que tu penses à ce que tu dis, que juste des phrases comme ça. Mais je suis assez homme pour que ma femme ait besoin de temps en temps de me dire, non, non, dis-moi quelque chose de vrai. Hein? Et Dieu veut ça aussi. C'est dans Romains chapitre 1, verset 21, il nous dit que quand les hommes ont cessé de glorifier Dieu et ils ont cessé de lui rendre grâce, eh bien, c'était le début de la dégénérescence. Vous voulez le secret? Comment vous éloigner de Dieu? Ne le louez plus, ne lui remerciez plus. Et vous, bientôt, vous ressemblerez comme tous les gens qui nous entourent, ou pire. Parce que celui qui a connu Dieu, parfois, ils sont pires que les gens du monde. C'est la formule pour une vie rétrograde. C'est ne plus adorer Dieu, mais sincèrement, du cœur, pas dire les mots. Mais, et puis de le remercier, et consciemment, un remerciement conscient pour une chose précise. Ma femme, je lui dis, écoute chérie, en début de semaine, je te remercie pour tout ce que tu vas faire cette semaine. Vous croyez que ça compte? C'est chaque fois qu'elle fait quelque chose, il faut que je lui dise, merci chérie. Ça, c'est bon. Je sais que tu n'es pas obligé de faire ça, mais tu as fait ça pour moi. Je te remercie. C'est une relation. C'est entretenir une relation, c'est construire. Mais Dieu, il veut ça aussi. Même si nous oublions Dieu, Dieu ne nous oublie pas. Ésaïe 49, verset 15, il dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai pas. Le jour où une mère qui allait peut oublier son enfant, ce jour-là, sache que moi, je n'oublie pas encore. Il y avait un homme qui se rendait chaque matin à l'hôpital, au centre de retraite, et il va prendre le petit déjeuner avec sa femme. Tous les matins, il prend le petit déjeuner avec sa femme. Et puis, un jour, il va chez son médecin, et le médecin dit, « Comment va ton épouse ?» Oh, il dit, « Elle est dans la maison de retraite. Son Alzheimer fait qu'elle ne me reconnaît pas quand je viens. » Le médecin lui dit, « Mais pourquoi est-ce que tu continues à aller la voir alors si elle ne te reconnaît pas ?» Il dit, peut-être elle ne le reconnaît pas, mais moi je sais qui elle est. Vous savez, le Seigneur ne nous oublie pas. Il dit, je sais qui tu es. Toi, peut-être tu peux m'oublier, mais moi je ne t'oublie pas, je sais que tu es mon enfant. Jérémie 2 dit, la jeune fille oublie-t-elle ses ornements? la fiancée sa ceinture, et mon peuple m'a oublié depuis les jours sans nombre. Est-ce que vous évoquez le Seigneur de moins en moins souvent? Est-ce que vous le remerciez plus rarement? Est-ce que vous trouvez de plus en plus facile de ne pas aller à l'église? Est-ce que l'oubli de Dieu a commencé à s'installer dans votre vie? Moïse soulève la question, mais ensuite il propose des remèdes. Que faire pour ne pas oublier l'Éternel? Eh bien, je vais aller rapidement, mais dans Deutéronome chapitre 9, si vous voulez, c'est donc le chapitre suivant, Deutéronome chapitre 9, verset 7, il dit « Souviens-toi et n'oublie pas de quelle manière tu as excité la colère de l'Éternel ton Dieu dans le désert, depuis le jour où tu es sorti du pays d'Égypte jusqu'à votre arrivée dans ce lieu. » Vous avez été rebelles contre l'Éternel. Il dit, il y a une chose à se souvenir, c'est qu'est-ce que vous étiez, qu'est-ce que vous avez fait, la vie que vous avez menée quand le Seigneur a commencé à intervenir. Il est bon pour nous de nous souvenir du lieu où le Seigneur, duquel il nous a tirés. C'est quand je pense ce que le Seigneur a fait. Mais je ne peux que le louer. Je ne peux que le remercier. Je dois me souvenir. Il dit, souvenez-vous des moments difficiles qu'on a eus et comment le Seigneur, ça l'a blessé, comment il a réagi et sa colère, tu l'as trouvée effrayante. Mais c'est parce que ça lui fait si mal. Il dit, si tu ne veux pas l'oublier, pense à ces moments où il t'a châtié. Et pourquoi il t'a châtié? Pense à ces moments d'épreuve et pourquoi il t'a éprouvé et quelle était la leçon qu'il fallait tirer. Il y en a qui ne tirent pas les leçons, donc ils sont obligés de le refaire. Et le Seigneur redonne une autre épreuve pour la même chose. Mais toujours dans le contexte de sa bonté, n'est-ce pas, et sa patience. Deutéronome chapitre 31, c'est les dernières paroles de Moïse à son peuple avant que Dieu le prenne. Et Deutéronome verset 31, et je vais lire des versets 19 à 22. Regardez ce qu'il propose pour ne pas oublier. Il dit « Maintenant, écrivez ce cantique. Enseignez-le aux enfants d'Israël, mets-le dans leur bouche et que ce cantique me serve de témoignage contre les enfants d'Israël. Car je mènerai ce peuple dans le pays que j'ai juré à ses pères de lui donner, pays où coule le lait et le miel. Il mangera, se rassasiera, s'engraissera, puis se tournera vers d'autres dieux et les servira. Il me méprisera, il violera mon alliance. Quand il sera atteint par une multitude de maux et d'afflictions, ce cantique ne sera point oublié et que la postérité aura dans la bouche déposé comme un témoin contre ce peuple. » Il dit des cantiques. Là, Moïse leur donne un cantique. Vous lisez le cantique, c'était pas quelque chose qu'on chante pour les mariages, mais vous savez, et quel est le cantique quand vous avez envie de chanter? Qu'est-ce qui vient dans votre esprit? Quel cantique? Est-ce que vous avez des cantiques, vous connaissez les paroles? Et vous avez choisi des cantiques, c'est des paroles qui vous rappellent les bontés de l'Éternel. C'est des cantiques qui vous... Vous savez, on enseigne nos enfants. Pourquoi on enseigne des cantiques aux enfants? C'est pas pour les occuper. Quand je suis arrivé tout au début à Fréjus, j'ai vu un certain Tony. Il m'a dit, tu sais Steve, moi j'étais un petit gamin comme ça dans les classes de ton père. Et j'ai fait que des bêtises, et puis, mais bon, j'aimais les gâteaux, tout ça, mais il y avait des versets qui revenaient constamment. Il les a répétés, ils sont rentrés dans ma tête malgré moi. Il a dit, mais plus tard, quand j'avais 20 ans, et que j'étais à fond dans le péché, dans les problèmes, et je ne savais plus où me tourner. Il dit, tu sais, Steve, il y a ce verset, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Il dit, je me suis souvenu de cette parole que ton père l'a mis dans la tête, c'est revenu. Il dit, j'ai prié. Et j'ai dit au Seigneur, je veux ça. Et tout seul dans sa chambre, dans le désespoir, il a trouvé la lumière. Moïse dit, il dit, prenez un cantique, mais un cantique qui a, c'est pas juste, c'est pas, si vous êtes attiré par la mélodie, elle me plaît cette mélodie, ben écoutez, ça c'est pas utile, ça c'est bon pour les mariages et les colonies de vacances et puis pour les fêtes et les marches et tout ça. Mais pour votre culte personnel, est-ce que vous avez un chant que vous pouvez associer à une expérience avec le Seigneur et qui vous rappelle, et quand vous le chantez, ça vous fait penser à un moment de votre vie où le Seigneur a agi. C'est comme ça, se souvenir, éviter. Et que même si je m'égare, il dit, même s'ils s'égarent, ils adorent d'autres dieux, mais un jour le cantique il revient. Et ah oui, c'est vrai. Vous savez, il restait très peu de traces de foi chez les enfants d'Israël. Quand Moïse est arrivé en Égypte, il leur dit, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est-à-dire le Dieu qui avait été adoré il y a 400 ans. C'est tout ce qu'il y avait. Mais il y avait un vague souvenir encore chez eux, que leur père, Abraham, Isaac et Jacob, avaient un Dieu. Et ça a permis de revenir. Oh, nous le faisons pour nos enfants, faites-le pour nous-mêmes aussi. Des versets que vous mémorisez et qui reviennent, que vous ne pouvez pas oublier. Ou bien dans votre Bible, vous marquez des versets. Et à côté, vous mettez une date et quelque chose. C'est comme ça, le jour où vous êtes vraiment, ça va pas bien, c'est le cafard de partout. Et puis, si par accident, vous prenez votre Bible et puis vous l'ouvrez comme ça, puis vous savez plus où regarder parce que vous êtes en train de... Et puis après, vous voyez que... Ah, tiens. Et puis tout d'un coup, ça ramène. Dire, ah oui, c'est vrai, le Seigneur, il m'a fait des choses. Il est intervenu dans ma vie. Vous savez pas combien de fois ça a sauvé des vies, ça. De sauver des gens, ramener à Jésus-Christ. Les ramener à la communion avec le Seigneur. L'importance du cantique. Moïse a composé. Il dit aussi, il dit Deutéronome 31, verset 10, il leur dit, Moïse leur donna cet ordre. Tous les 7 ans, à l'époque de l'année du relâche, à la fête des tabernacles, quand tout Israël viendra se présenter devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu que tu choisiras, tu liras cette loi devant tout Israël en leur présence. C'est lire et relire. Il a dit, tous les 7 ans, tu les fais venir et vous relisez tout. Pour qu'ils se souviennent de tout ce qui a été dit, tout ce que le Seigneur a promis, tout ce qu'il désirait. Est-ce que vous prenez le temps? Vous dites, ah, moi je vais au culte le dimanche. Hein. Ben, si vous comptez sur ça, ça suffit pour survivre, mais pas pour vivre la vie chrétienne. Il faut lire la Bible. Et ce n'est pas tous les 7 ans. Hein. C'est régulièrement. Régulièrement. Et puis il y a certains passages qui vous parlent vraiment. Alors cela, marquez-les. Mettez-le dans votre agenda pour que tous les temps en temps, hein, votre... smartphone, il vous dit, hop, c'est le temps de lire ce passage, parce qu'il te rappelle ce que le Dieu a fait pour toi. Et puis après, vous allez le lire. C'est intentionnellement qu'il faut se préparer pour ne pas oublier l'Éternel, parce que nous sommes tous capables. Moi aussi. Parce qu'on peut être plein dans le ministère, on est en train de tout travailler tout le temps pour les autres, et on ne donne rien pour soi-même. Je dois lire la Bible pour moi, après je la lis pour les autres. Sinon ça ne va pas. Est-ce que vous avez... Abraham, il avait des autels dans sa vie. Et un jour, il est descendu en Égypte. Vous vous souvenez de l'histoire, il est descendu en Égypte et Dieu n'avait pas voulu, et puis il a eu des ennuis, et puis bon, c'est là où il a eu Agar, et Agar, ça lui a donné Ismaël, et puis ça a donné des problèmes. Mais vous savez, quand il est descendu en Égypte, il avait eu un hôtel, puis il est descendu en Égypte. Quand il est revenu d'Égypte, il est revenu à l'hôtel où il était la dernière fois. Et il a trouvé Dieu. Est-ce que vous avez des repères dans votre vie, des endroits où ça, je sais que Dieu, là, il m'a parlé, et là, il a agi chez moi. C'est des repères, c'est des hôtels dans votre vie, dans votre expérience avec le Seigneur. Moi, Abraham en avait, vous devez en avoir si vous êtes enfant de Dieu. Abraham, il les avait tous les 25 ans, mais bon, il en avait. Vous revenez, dites, Seigneur, là, c'est vrai, je sais encore, c'est toi qui es intervenu là, c'est toi qui as pourvu. Je reviens là et je veux te remercier encore une fois, je veux te louer pour ce que tu as fait là. Et puis je commence là et puis tout d'un coup j'ai envie de le remercier pour beaucoup de choses. Et on redonne de la fraîcheur à sa reconnaissance et à son adoration. Lisons le psaume 103, regardons le psaume 103. Psaume 103, et ça, regardez comment ça commence. Ça dit, mon âme, l'âme, c'est là où vous avez votre mémoire, votre intelligence, vos raisonnements. Il dit, mon âme, bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits, car c'est lui qui pardonne. Pourquoi c'est par là? Qui est-ce qui t'a pardonné tes péchés? Qui est-ce qui est mort sur la croix pour que tu puisses avoir tes péchés pardonnés? Déjà, il y a de quoi remercier le Seigneur. Vous savez, prenez ce psaume, et à chaque verset, vous essayez d'associer quelque chose que le Seigneur a fait pour lui. Là, il est en train de nommer plein de choses, que le Seigneur, des raisons pour lesquelles il veut louer le Seigneur. Eh bien, faites un psaume 103 personnel, pour vous. Composez un psaume, un texte, quelque chose où vous commencez à énumérer les choses que le Seigneur a fait pour vous. Mettez ça dans un endroit où vous pourrez le trouver et où vous pouvez le relire. Et puis vous dites à mon âme, bénis l'Éternel, regarde ce qu'il a fait. Parce que vous savez, le chrétien, c'est myope, il ne voit pas très loin. Et de temps en temps, on a besoin de lui faire lever les yeux et puis de regarder et dire, ouais, regarde, tu te souviens où tu étais? Regarde où tu es maintenant, grâce au Seigneur. Ou bien, regarde, tu vois où tu as laissé le Seigneur, il est là-bas, il t'attend. Hein. Retourne, il est là, tu le vois, il t'attend. Et tu retournes à cet endroit-là. Je dis, là, je savais que j'étais avec lui, là. Et je reprends à ce moment-là. Ça y est, je vous ai dit que je suis dans les livres des juges et il y a un verset triste, terrible là. Je vais vous le lire. Il dit, « Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. » C'est le risque. Il dit, il y avait une génération qui est sortie de l'Égypte, une autre génération qui est entrée en Canaan, et après il y en avait une. Il dit, mais Dieu, qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Nous, ça a toujours été comme ça. Et c'est le risque pour nos enfants. Vous vous souvenez d'où vous êtes tirés, mais vos enfants, depuis, le Seigneur bénit, et eux, ils ont une belle vie parce que vous êtes au Seigneur. Eh bien, on a besoin de leur rappeler. Vous savez, tous les pays du monde ont des fêtes nationales. Pourquoi? C'est juste pour inventer une excuse pour un jour férié? Non, chaque fois c'est pour se souvenir de quelque chose qui s'est passé dans l'histoire du pays. Dans l'Église, nous avons aussi des fêtes nationales, la table du Seigneur. C'est un moment où on revient et on se souvient de ce que le Seigneur a fait. Chaque fois qu'il y a un baptême, c'est une fête nationale. Mais est-ce que vous avez des fêtes spirituelles à vous? autres que Pâques et Noël, mais des fêtes. Le Seigneur a fait quelque chose. Votre date de naissance, ça se fête, la date de naissance. Hein, on aime bien, si personne pense à nous dire « Happy birthday », on est embêté. Et le jour de ta naissance spirituelle. Bon, chez nous, à Fréjus, on a des retraités, donc ils préfèrent évoquer la date de leur nouvelle naissance plutôt que d'évoquer la date de la première naissance. Mais vous savez, est-ce que vous avez des fêtes nationales dans votre vie personnelle et que vous les marquez dans votre calendrier? Et dites, Seigneur, ce jour-là, je m'arrête. Je prends une demi-journée où je pense à tout ce que tu as fait pour moi. Nous pouvons oublier, mais nous ne voulons pas oublier. Mais il faut décider de ne jamais oublier, sinon on oublie. Moi, j'oublie souvent. C'est pour ça que j'ai une épouse. Quand j'ai pas mon épouse, j'ai pas ma mémoire. Mais aussi, quand je n'ai pas ma Bible, j'ai pas ma mémoire non plus. Et je peux oublier le Seigneur. Ce matin, où vous connaissez le Seigneur, et vous avez besoin de le remercier, de le louer, quelque chose de frais. Hein, pas du recuisiné ou quelque chose vous tirez du congélateur de votre cœur, mais quelque chose de frais, conscient. Seigneur, je veux te remercier pour cela. Ce que tu as fait, ce que tu as fait récemment, et je compte sur toi pour l'avenir. Je le loue, je le remercie pour sa bonté envers moi, dans une chose particulière. Tu as été bon pour moi, tu m'as préservé, tu m'as accordé, tu m'as relevé. Tu m'as donné une espérance nouvelle. Ou vous ne connaissez pas le Seigneur. Dites, mais tout ça c'est beau, mais moi je comprends rien. Écoutez, le premier pas c'est vers la croix. Et pas une croix de bois, mais celui qui est crucifié sur la croix. Celui qui aurait pu descendre de la croix, mais qui ne l'a pas fait parce qu'il vous aimait tant. On lui a suggéré de descendre de la croix. Ça venait du diable. Vous savez, quand Jésus a dit aux disciples, il leur disait, vous savez, je vais monter à Jérusalem, et là je vais être crucifié, et tout ça. Et Pierre a dit, arrête, parle pas comme ça. Vous savez que Jésus, il a répondu. Il a dit, arrière de moi, Satan. Jésus a dit, moi, je vous aime tant. Je suis mort sur la croix. Et puis à partir du moment où tu prends conscience de cela, eh bien tourne là et dis, Dieu, je ne sais pas comment te demander, mais j'entends que tu m'aimes et que tu veux pardonner mes péchés et que tu peux le faire parce que Christ est mort sur la croix. Je viens à toi, sauve-moi. Et vous savez, il ne demande pas plus et il n'attend pas longtemps. Il le fait immédiatement. Il dit, celui qui croit, quiconque croit, a la vie éternelle. De suite, prions. Je vais me taire pendant quelques instants, je vais vous laisser prier, parce que peut-être le Seigneur vous a parlé, peut-être vous avez besoin de demander pardon pour quelque chose. Peut-être vous avez besoin de dire, Seigneur, je prends la résolution de consciemment essayer de me souvenir, je vais me donner des repères, je vais me donner des choses pour que je n'oublie pas, je ne veux pas t'oublier. Puis ensuite, je prierai. Père Céleste, tu entends les prières qui montent. Tu sais ce que chacun a dit. Peut-être est-ce qu'il t'a promis quelque chose, oh, aide-le à garder sa promesse. Peut-être t'a-t-il demandé pardon, pardonne-le et relève-le. Peut-être a-t-il dit, Seigneur, préserve-moi, je ne veux pas t'oublier, jamais. Seigneur, à chacun de nous avons besoin d'avoir cette relation personnelle avec toi. Et ce n'était pas pour attrister le peuple que Moïse leur a parlé de cette manière. C'était pour les avertir, afin qu'ils n'aient pas cette expérience. Et ce matin, ce n'était pas pour culpabiliser quelqu'un. C'est pour notre bien, parce que tu es un Dieu qui est bon. Ta bonté est infinie. Et parfois, tu nous parles directement parce que tu veux notre bien. Et puis, tu aimes entendre tes enfants qui, consciemment, te disent combien ils t'aiment, combien ils sont reconnaissants pour ce que tu as fait, et qui te découvrent, et au fur et à mesure qu'ils te connaissent, ils trouvent de plus en plus de raisons pour te louer et t'adorer, pour qui tu es, pour ce que tu fais. Seigneur, entends notre prière, et que c'est à la gloire de ton nom que nous avons parlé. Aide-nous au nom de Jésus-Christ. Amen.